Donc George Abdallah, c'est un homme simple qui a en fait des idéaux, qui a défendu son pays quand il a été attaqué, qui est resté fidèle à ses principes et qui n'en démord pas aujourd'hui, ce qui lui vaut de rester emprisonné. Donc il est né en 51, il a eu 61 ans lundi. Il est né à Kobayat, c'est une ville en fait dans le nord du Liban. Et il est né dans un contexte particulier. Il y avait au Liban une crise d'identité certaine et naissait déjà à l'époque en fait des mouvements révolutionnaires, des idées, des mouvements de masse. Et Georges Ibrahim Abdallah a été sensible à ce contexte-là. Donc, à l'époque, la bourgeoisie en fait libanaise n'a pas voulu laisser place aux velléités en fait des mouvements de masse et a exaspéré les différences religieuses et les conflits confessionnels. Sur cette base-là naissent en fait une guerre civile qui oppose les Libanais. Et s'ajoute à cela en fait les velléités révolutionnaires, les velléités d'indépendance du peuple palestinien. Donc, la misère étant, les volontés de lutte étant, certaines personnes décident en fait de prendre des armes et de rentrer en résistance au moment de la guerre civile. George Ibrahim Abdallah fait partie de ces personnes qui décident de rentrer dans les mouvements de résistance. Donc il a été nourri au nationalisme arabe nassérien. Il décide ensuite de rentrer au Parti national social syrien. Et sa conscience, en fait, résistante et révolutionnaire, se construit au travers du parti, enfin de l'idéal communiste, en fait. Donc il devient un résistant révolutionnaire communiste libanais. Il devient, de par son niveau, parce que c'était quelqu'un quand même très instruit, et de par ses actions sur le terrain, un cadre au FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Et il fait partie de ceux qui décident qu'il faut en fait transposer les guerres, les événements, la résistance au sein même des États impérialistes. À partir du moment qu'ils font la guerre à leur pays, il faut du coup frapper chez eux aussi. Donc c'est ce qu'ils décident de faire. Se crée alors une entité, le FARL, le Front Armé de la Résistance Libanaise, si je ne me trompe pas, qui est en fait une entité hein, du FPLP, une carte de visite du FPLP. Donc ils agissent aux quatre coins de l'Europe, et notamment en France. En France, qu'est-ce qui se passe? En 82, une série d'attentats en France, et l'assassinat de deux personnes, je ne retiens jamais les noms, pas si c'est un hasard, je vais vous dire, le colonel Charles Ray, attaché militaire à l'ambassade américaine, et Yaakov Barsimantov, responsable du Mossad, sont exécutés tous les deux en 1982. Deux ans après, en 1984, Georges est arrêté à Lyon, et son incarcération est motivée par... en fait, il est arrêté avec ce qu'on appelle, je lis ça un petit peu partout, des vrais faux papiers algériens. C'est-à-dire que c'est des papiers véritablement donnés par les autorités algériennes, mais avec un nom, semble-t-il, fictif. Voilà. Étant de nationalité algérienne, l'État français s'engage auprès du gouvernement algérien à libérer Georges Ibrahim Abdallah rapidement. Georges est condamné à 4 ans de prison pour détention d'armes et d'explosifs. Alors il refuse le procès, mais il n'interjette pas appel. Et les autorités, donc là, c'est ce qu'il faudra dénoncer haut et fort, les autorités américaines elles-mêmes se constituent partie civile en fait lors du procès, et demande l'incarcération de George Ibrahim Abdallah. Reagan, à l'époque, s'adresse directement à notre ami Mitterrand, n'est-ce pas, pour... je fais un clin d'œil à la PS. Pour lui, il aborde la question avec lui directement et insiste sur la nécessité d'incarcérer George Ibrahim Abdallah. Bien entendu, on l'écoute, et George Ibrahim Abdallah est emprisonné. Du coup, la France ne respecte pas son engagement vis-à-vis du gouvernement algérien. Alors pendant ce temps-là, 85-86, il y a encore toute une série d'attentats à Paris qui sont alors revendiquées par le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes, qui exigent entre autres la libération de Anis Nakache, de Varoujan Garbidjan et de Georges Abdallah. Alors, pour la parenthèse, aujourd'hui, on pense que ces attentats ont sûrement été commis par des Iraniens, par l'Iran, pour faire en fait payer la France son soutien à l'Irak. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte en fait d'attentats, de tueries, où l'opinion publique est traumatisée par l'ensemble de ces attentats, il faut un coupable, il faut arrêter quelqu'un. Dans ce contexte alors, Georges, qui est incarcéré depuis plus d'un an quand même, la DST annonce une trouvaille. Alors on parle beaucoup de découvertes miraculeuses, de trouvailles inespérées. Je répète, un an après son incarcération, on trouve dans son appartement l'arme qui a servi à tuer Charles Ray et Bertie Manteau. Du coup, en 87, c'est un nouveau procès, mais cette fois-ci sur la base de cette découverte. Et Georges Ibrahim Abdallah, alors que le procureur, c'est important de le souligner, avait demandé une peine d'emprisonnement de 10 ans, le juge, lui, décide de l'emprisonner à perpétuité. Enfin, je crois que c'est la première fois, en fait, qu'un juge donne une décision plus importante que ce qu'avait requis le procureur de la République. Georges est emprisonné, donc à perpétuité, il ne sortira bien évidemment jamais. Alors en prison, il continue à défendre la cause des peuples opprimés, il continue à militer comme il peut. En 99, il adhère à une plateforme qui réunit des prisonniers politiques, antifascistes, anticolonialistes, anti-impérialistes, etc. Il participe à des grèves de la faim en solidarité avec les prisonniers turcs, avec les prisonnières israéliennes. Jusqu'à il y a peu de temps, cet hiver, il a fait également une grève de la faim et il a refusé aussi des visites en solidarité avec la mise en isolement de prisonniers palestiniens. En 2003, alors de là, on parle à ce moment-là d'acharnement judiciaire. Parce que de là, par une sorte de succession en fait, d'aventures malencontreuses pour Georges, en 2003, il obtient la libération conditionnelle. Tout est fait, en fait pour qu'il rentre au Liban. Le gouvernement libanais lui-même a préparé son retour, le passeport est pris, etc. Et c'est, encore une fois, notre ami, d'ailleurs, Dominique Perben, ministre de la Justice, qui donne ordre au procureur de faire appel. Donc, tout à l'heure, j'incitais à ce qu'on se questionne sur l'indépendance de la justice vis-à-vis du gouvernement américain. Là, il faut s'interroger aussi sur l'indépendance de la justice vis-à-vis de notre gouvernement tout court. Donc, en 2004, Georges est maintenu en prison. Il fait une nouvelle demande d'appel, une nouvelle demande de libération en 2005 qui est rejetée. Et Georges fait appel et l'appel est encore une fois rejeté en 2006. Il fait une autre demande en 2007 qui est encore une fois rejetée. Au motif que ses convictions anti-impérialistes et anti-israéliennes sont restées intactes. Encore une fois, il fait appel. Entre-temps, là c'est l'aspect juridique, arrive la loi sûreté et rétention du 25 février 2008 qui rentre en vigueur. Et là, manque de choses aussi pour lui, nous allons l'appliquer rétroactivement. Ce qui n'aurait pas dû être fait en fait. Au principe, d'un principe général du droit, la non-rétroactivité des lois. Donc on applique rétroactivement et puis Georges est envoyé donc au CNO de Fresnes, le Centre National d'Observation, et de là s'enchaîne donc une série de rapports d'audience. L'acharnement judiciaire continue, on le cite à comparaître pour un refus d'ADN en 2008, et là, asseyons-nous tous, alors qu'il a déjà pris par perte, il se prend 3 mois de prison en plus pour refus d'ADN. Voilà. Donc il fait appel, précisant que son ADN devait être connu de tous les services secrets, y compris le Mossad, et il gagnera cette bataille malgré un pourvoi en cassation du ministère public qui ne voulait pas perdre la face, mais il a perdu quand même. Quoi qu'il en soit, sa demande de libération est quand même rejetée et il reste en prison. Alors, aujourd'hui, il fait une nouvelle demande de libération. Il a été envoyé à Fresnes. Il est au Centre National d'Observation. Il va y passer 7 semaines, 7 semaines extrêmement difficiles. Donc, les questions qu'on a envie de se poser aujourd'hui, pourquoi il ne sort pas, pourquoi le gouvernement américain intervient, pourquoi le gouvernement français ne laisse pas la justice s'appliquer, ne laisse pas rentrer dans son pays. Qu'est-ce que cela signifie, rester en prison parce qu'on est fidèle à ses principes? Qu'est-ce que cela signifie, rester en prison parce qu'on est anti-impérialiste ou anti-sioniste? Nous interrogeons-nous aussi sur l'opportunité de cette loi du 25 février 2008 et sur l'existence de ce CNO qui a tendance à s'appliquer et en fait à n'intéresser, semble-t-il, que les prisonniers, politiques. Voilà. Alors je voulais vous lire son discours de 1987. Donc j'ai choisi quelques passages. Alors, Madame, Monsieur, qu'un combattant arabe soit jugé par une cour spéciale en Occident, rien de plus normal. Qu'il soit traité de criminel et de malfaiteur, rien de vraiment nouveau. Déjà, les bandits de l'Aurès, les terroristes de Palestine, ainsi que les fanatiques lépreux d'Ansar et Riyam, ont été l'objet de ces honorables qualificatifs. Ils rappellent à tous ceux qui ont la mémoire courte le patrimoine de votre justice occidentale ainsi que votre civilisation judéo-chrétienne. Mais que le criminel yankee, bourreau de tous les hérités de la terre, de tous les déshérités de la terre, soit en plus le représentant des prétendues victimes devant vous, il y a bien de quoi alors s'abstenir de tout commentaire sur la nature de votre cour, ainsi que sur la tâche qui lui est assignée. En dépit des souffrances de tous les peuples de la terre, vos patrons imposent la paix et la légalité de leur système criminel, dont la guerre fait partie intégrante. Mais vous vous trompez si vous espérez que la guerre ne dépassera plus jamais les régions des périphéries. Avec quelle sérénité et quelle indépendance prétendez-vous juger des actes de guerre en les isolant du processus général de l'agression impérialiste perpétrée contre notre peuple? Dans quelle mesure, vous, représentants de l'impérialisme français, n'êtes-vous pas impliqués dans cette guerre? De quel cynisme doit être doté le représentant du criminel Reagan pour se présenter en victime et partie civile à Paris au moment où l'US Navy prépare l'assaut de Beyrouth et autres cités arabes? Il faut avoir une certaine parenté avec Goebbels pour pouvoir faire avaler cette scène. Et qui d'autre que les instances impérialistes occidentales a droit à cette tordure de l'histoire et à son infâme parenté? Depuis bientôt plus de 40 ans, notre peuple subit les agressions de tout poil. Aucune arme ne fait défaut au champ d'expérimentation où notre peuple sert de cobaye. Au début du siècle, jusqu'à nos jours, rien ne nous fut épargné par vos patrons, des plus infâmes conspirations aux plus criminels massacres. Notre pays, messieurs, est occupé. Notre peuple est déraciné. Les occupants, les agresseurs sont des occidentaux blonds aux yeux clairs. Ce ne sont pas des slogans de propagande. Ce sont des femmes et des hommes en chair et en os éventrés. Ce sont des gosses par centaines décapités. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des avions qui bombardent et tuent et des navires de guerre sèment la mort et la destruction. Chaque jour, vos colons ramassent de nouveaux otages. Notre peuple, des territoires occupés, est otage et le reste est otage potentiel ou victime en puissance. Messieurs, je ne suis pas ici pour attirer votre attention sur la cruauté des massacres perpétrés contre notre peuple. Vous n'êtes, d'ailleurs, pas tellement étranger à ces massacres. Je ne suis pas ici non plus pour solliciter une condamnation du bourreau. Déjà, les plus hautes instances internationales nous en ont fourni assez. Mais hélas, ces paperasses ne nous ont pas servi à grand-chose, ni en 82, ni avant, ni après, face au florent de votre industrie meurtrière. Je suis ici, messieurs, pour vous demander simplement de bien vouloir laver vos mains maculées de notre sang et du sang de nos mômes, avant de prétendre nous juger. Car celui qui accepte de fouler aux pieds le sang de 25 000 morts tombés au Liban lors de l'invasion impérialo-sioniste de 82 ne peut qu'être le complice direct de Reagan et de Begin dans leur guerre d'extermination contre notre peuple. 25 000 morts en 3 mois à l'honneur de votre paix, 45 000 blessés à l'honneur de votre justice. 90 jours de Beyrouth tenus en champ d'expérimentation des armes américo-israéliennes et pourtant l'administration Reagan est victime et partie civile à vos yeux. Bien sûr, rien d'anormal, tout cela en dépit de l'illusion débile de ceux qui prétendent déceler une possible impartialité de la France impérialiste et de sa justice. C'est ça l'ABC de votre justice, le fond de ce procès et de ces accusations, qui par ailleurs ne me sont que des honneurs que je n'ai pas mérités. Si notre peuple ne m'a pas confié l'honneur de participer à ces actions anti-impérialistes que vous m'attribuez, au moins j'ai l'honneur d'en être accusé par votre cour et de défendre leur légitimité face à la criminelle légalité des bourreaux. Et je crie haut et fort, foulons aux pieds toute entrave à la légitimité de notre combat. Je sais très bien que c'est cette position qui est à criminaliser. Et c'est en fonction de cette tâche que votre justice est rappelée à l'ordre par l'administration Reagan. En toute indépendance et impartialité, vous avez obéi à l'appel. Et en toute sérénité, je vous réponds au nom de ce que je représente ici, ou bien il y aura la paix pour notre peuple arabe, ou sur toute la terre arabe, ou bien il n'y aura la paix pour personne et nulle part. Bien sûr, les esprits tolérants et démocrates ont bien de quoi s'indigner devant la montée du fanatisme et du terrorisme international. Ils n'oublient jamais d'afficher leur solidarité humaine avec la résistance contre l'occupant, à la seule condition que les victimes obéissent aux lois des bourreaux, à savoir que la guerre ne devra jamais plus dépasser les régions des périphéries et ne devra plus jamais perturber leurs criminels en paix. Bien sûr, il n'y a pas de raison pour que le bourreau soit accusé. Ses victimes ne sont en fin de compte que des Arabes, des Africains, des Asiatiques, des Latino-Américains, et leur extermination n'est ni un délit ni un crime pour la justice occidentale. C'est dans cet état d'esprit que la chambre d'accusation a établi ses prétendues charges irréfutables contre moi. Sachant bien que la lutte des peuples n'avance pas en fonction de la longueur des déclarations de ces combattants prisonniers, je remercie mes ravisseurs pour m'avoir laissé exprimer ce que j'ai à dire en dépit du régime d'isolement carcéral qui m'est appliqué. M'adressant à vous, ainsi qu'à mon père, de qui je n'ai plus de nouvelles, je vous répète la parole d'un combattant africain, Wota Sita, ce qui veut dire en français « c'est juste le temps de ». Et je me retire de cette cour, vous laissant le plaisir d'écouter le représentant du bourreau et sa défense vomir leur haine contre les déshérités de la terre. À bas l'impérialisme et ses laquais, la victoire et la gloire pour tous les peuples en lutte. Georges Ibrahim Abdallah.